Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. C'est le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous avons déjà bien débattu ce matin. France-Nouvelle-Zélande, ce match est-il capital? Nous avons parlé de l'équipe de France de foot. Le désamour envers cette équipe de France, est-ce qu'il est passager ou bien installé? On a parlé de la DNCG et de cette décision de rétrograder à titre conservatoire l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez réécouter tout ça en podcast après l'émission, évidemment, car nous avons encore une heure ensemble. Merci infiniment de nous écouter. Les Blacks font-ils un complexe face aux Bleus? C'est la seconde des GG dans quelques instants. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. C'est quoi le débat caché du jour, selon vous? Votre petite sensation pendant la pub, tu me disais, Denis, ah moi je sais ce que c'est le débat caché.
Ça m'est venu d'un coup, comme
vas-y,
ça.
Vas-y, une lumière.
C'est au sujet de Estelle Mosley.
Ok, pourquoi?
On a remis en question dernièrement sa candidature à l'élection de la présidence de la boxe.
Ok, Estelle Mosley, c'est ça ta lumière?
Oui.
Oui.
Vous n'êtes pas au courant?
Si, si, on adore.
Oui, oui, j'ai tous dit courant,
mais je s'est présenté, qu'on remet en question sa candidature.
Franchement, je...
On en fait quoi de ce débat caché?
Mieux pas que tu sois tout de suite rédacteur en chef de cette émission.
vas-y, en fait, ton débat caché.
Ah bah voilà, Christophe, quel est le débat caché?
Moi, je pense que ça a effectivement trait à la boxe, et plutôt à ce qui s'est passé cette nuit, non?
Mais non,
c'est-à-dire la légende éternelle de la boxe mondiale.
C'est pathétique, on va parler de ça.
Ah ouais, mais justement, est-ce que c'est pathétique? Est-ce qu'il faut encore avoir ce genre de truc ou non? Voilà,
moi, Tyson qui a perdu, c'est un YouTuber.
Oui,
cette nuit,
il a gagné 40 millions de dollars aussi.
Oui, donc il n'a pas tout perdu, c'est ce que tu veux dire. Bon, c'est une très bonne idée de débat caché.
Non, c'est pas une bonne idée du tout.
Philippe.
Ben moi, je vais aller dans le foot. La Juve vient d'annoncer que le départ de Pogba. Et est-ce qu'un club français doit se mettre sur lui? Parce que je crois qu'il peut jouer à partir de 2025.
Exactement, à partir de mars 2025, voilà. Précisément. C'était une bonne information et c'est un très bon débat caché aussi. Ouais. Bravo, mon cher Philippe.
Merci.
David Douillet.
C'est Christophe qui m'a piqué
tu peux dire la même chose. Tu peux dire.
Non, mais il m'a rien piqué parce qu'il a raison. Il a raison. Je trouve que l'actu du moment, c'est ce match de boxe. Enfin, si on peut appeler ça un match. Qu'en est-il? Pourquoi? Comment? L'argent, revanche ou pas? Est-ce que c'est monté de toutes pièces? C'est un YouTuber, 20 millions d'abonnés.
Est-ce que ça mérite qu'on en parle? Surtout, je suis désolé.
Justement, parce que ça permettra de parler de l'état de la boxe mondiale, quoi. Tu vois, si aujourd'hui on en est à ce niveau-là, à organiser des matchs de cet ordre-là, c'est assez significatif sur l'état de la boxe mondiale.
Voilà. Il est vexé parce qu'il n'a pas eu d'idée, Denis. Il nous a cherché un truc complètement.
Je comprends.
Je lève le débat.
Les propos de David Douillet. Ce que je comprends, c'est que si je fais pas Mike Tyson, c'est une faute professionnelle. Donc j'ai bien compris.
Mais ça sera pas ça.
Non, mais j'ai bien compris. Ok. En tout cas, c'est 11h30, les copains, le débat caché. 11h45, c'est à vous de jouer les auditeurs, le 32-16 pour venir affronter le GG. Sur un thème du jour, vous entendez les petites cloches car c'est l'un des événements aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de ski alpin. Demain il y aura les hommes, ce matin ce sont les femmes avec le slalom. La première manche, ça se passe à Lévis, c'est en Laponie finlandaise. Léna Marjac, bonjour.
Salut JC, salut à tous.
Comment ça se passe pour nos Françaises peut-être?
Alors pour l'instant on n'a que 3 Françaises sur 6 qui sont passées. Il y a seulement Marie Lamure qui se classe 24e, ça veut dire qu'elle va passer en seconde manche. Et d'ailleurs elle a 24e, je croyais qu'à l'instant elle venait se faire passer devant, mais non, elle est toujours 24e. Déception pour Chiara Pogno qui était notre meilleure Française avec le dossard 23 qui est au-delà des 30. Et puis Marion Chevrier ne verra elle pas non plus la seconde manche. En attendant, en tête de cette première manche, c'est évidemment Mikaela Shiffrin, 7 fois vainqueur ici à Lévis. Elle a terminé cette première manche en 52 secondes 39 centièmes. Derrière elle, on retrouve l'Allemand Lena Dürr à 6 dixièmes de retard et la jeune croate de 20 ans Zinkra Lutic. Et donc on verra la suite de ce premier slalom de la saison à Lévis. Ce sera tout à l'heure à partir de 13h pour la deuxième manche.
Ça marche bien le slalom féminin français, hein. On est au taquet là.
Ouais. Il faudrait peut-être naturaliser Lynn Sevon qui fait son tour, c'est possible. Ouais. En tout cas, les hommes, ce sera demain avec notamment un certain Clément Noël. Et puis, évidemment, vous redonnez cette information, chers auditeurs, les 100 000 euros, c'est bientôt dans les GG du sport. Dans une quinzaine de minutes, restez bien, soyez présents avec nous car on peut vous faire gagner 100 000 euros net d'impôts. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Philippe Chesterfield qui a dit un jour, et ça vous concerne hein, les GG, il a dit un jour: nombreux sont les gens qui se réjouissent de l'infériorité de leurs amis.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Oh le tacle.
Pardon, je ne vous dérange pas. Si, un peu quand même.
Les pénalités de Thomas Ramos de 50 mètres. Il aura la distance, il va ramasser son tir, ça va. Et ben ça passe.
Tu ne fais pas peur, hein, tu sais.
Allez, côté pour le deuxième donné. Le coup de pied, le rebond. Et oui, et c'est.
Ouais, c'est l'équipe de France, et c'est la gagne.
Carrément. T'as peur de rien, toi.
Et c'est terminé. La France remporte ce premier match de Coupe du Monde. 27 à 13, face au All Blacks.
J'ai pas peur, moi. Je m'en tamponne.
Jaminet, 40 points, victoire historique de l'équipe de France. Jamais l'équipe de France n'avait battu la Nouvelle-Zélande par plus de 15 points d'écart.
Novembre 2021.
Mon anniversaire, ça.
Oui, c'est vrai, je suis resté bloqué sur tes 60 ans. 20 novembre 2021, la plus large victoire, vous l'avez entendu, de l'histoire du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. 8 septembre 2023, ouverture de la Coupe du Monde, les Bleus détruisent les Blacks 27 à 13. Voici les deux dernières confrontations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Notre 15 de France n'a plus perdu face au mythe depuis 2018. Une éternité, les copains. Alors les rabat-joie dont vous faites certainement partie répondront oui, mais dans l'histoire, la balance penche toujours fortement d'un côté. 48 victoires néo-zélandaises, 14 victoires françaises. Mais tout de même, la musique qui fout les jetons. Et cette question, les Blacks font-ils désormais un complexe face aux Bleus? Oui ou non? Christophe Cessieux.
N'importe quoi.
Philippe Saint-André.
Un petit.
Un petit oui, bravo mon Philippe.
Philippe, c'est parce qu'il fallait qu'il aille contre nous. Hein. Tu le sais.
Cette émission n'est absolument pas truquée. David Douillet.
Moi, je le trouve hyper courageux, Philippe. Merci, Philippe.
Évidemment
grâce
que non.
Lui, le débat existe.
Denis Charvet.
Mais non, jamais.
Non, jamais.
Jamais.
Bon, avant de débattre, on va retrouver notre journaliste.
Il y a du respect, mais.
RMC Sport, suiveur des Bleus, c'est Pierre Thévenet. Salut, Pierre.
Salut, messieurs.
Les Néo-Zélandais abordent-ils désormais un match face à la France différemment, toi qui les as rencontrés cette semaine?
En tout cas, ils respectent les Bleus, ils les craignent, ils veulent laver l'affront. C'est sûr, ça ne leur arrive pas souvent de perdre deux fois de suite contre une nation du Nord. Contre les Bleus, c'était arrivé une fois entre les saisons 94 et 95. Et si on prend les confrontations avec les autres équipes du Six Nations, ils sont sur deux victoires contre l'Irlande, trois contre l'Angleterre, beaucoup plus contre Écossais, Italiens ou Gallois. Le talonneur Cody Taylor, écoutez-le, il est encore en travers de la gorge ces deux défaites.
Je n'ai pas de grands souvenirs au Stade de France personnellement, avec deux défaites à la Coupe du Monde et en 2021. Mais bon, la troisième sera la bonne.
Ou jamais 203, bien sûr. Les Bleus sont maintenant conscients de pouvoir battre les Néo-Zélandais. Sur les 15 titulaires de l'équipe de France ce soir, 8 ont un bilan positif face aux All Blacks. Et seuls 2, Antoine Dupont et Gaël Ficou, ont déjà perdu face à la Nouvelle-Zélande. Le centre des Bleus l'affirme maintenant, les Bleus rivalisent.
On a de quoi rivaliser, pour moi c'est du 50-50. On a aussi du talent en France, on a aussi des joueurs d'exception avec de la qualité, ils en ont aussi. Donc ça va être un très beau match, deux équipes qui vont très vite, qui essayent de produire du jeu, qui aiment bien les contre-attaques, donc je pense que ça va être un très beau match.
Attention quand même, les All Blacks ont beaucoup changé depuis la dernière Coupe du Monde avec l'arrivée de Scott Robertson, ancien manager des Crusaders, qui connaît bien les Français, et lui qui a joué 3 ans du côté de Perpignan.
Les forces des Français n'ont pas changé. Quand ils commencent à franchir, passer après contact, ils sont très durs à rattraper. C'est une équipe instinctive, avec leur French flair, mais aussi une grande discipline. On connaît leurs forces.
Et la plus grande force des Bleus s'appelle bien sûr Antoine Dupont. Lui, les Blacks en ont beaucoup parlé cette semaine. Il s'en méfie énormément. Écoutez son vis-à-vis, le capitaine néo-zélandais Ardie Savea.
Il est très important pour eux depuis son premier match en bleu. On l'a vu avec le rugby à 7. Il est devenu champion olympique. Son doublé avec Toulouse aussi. J'espère que notre défense sera au niveau et que notre stratégie le neutralisera. Mais on connaît et respecte sa classe. Il y a des gars que tu ne peux pas stopper. On fera de notre mieux.
Face au bleu de Dupont, les Blacks sont désormais dans la position inhabituelle d'outsider. La semaine dernière à Dublin face à l'Irlande, ça leur avait très bien réussi avec une belle victoire 23 à 13.
Les Blacks en position d'outsider. Et ça se voit dans les cotes hein, d'ailleurs. Hein. La France est favorite de cette rencontre. On en parlera dans les paris RMC à partir de midi. Merci beaucoup Pierre Thévenet. Tu restes avec nous pour ce débat. 11h16 sur RMC. Vous voulez participer à ce débat, chers auditeurs, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Les Blacks font-ils un complexe face aux Bleus? T'as une position pas facile à défendre, mon cher Philippe. Est-ce que tu veux commencer ou tu préfères laisser tes opposants parler?
Moi, je préfère que Christophe Cessieux commence.
Ok, ah, Christophe, tu es demandé par Philippe, tu commences.
Comme sur, comme ça, il va pouvoir me choper plein de
balles. Comme sur le premier sujet, que j'ai bien apprécié.
Mais je trouve ça tellement français d'imaginer que les plus grandes équipes du monde nourrissent des complexes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la puissance, de la grandeur de la France. Mais non, je suis désolé, je ne pense pas un instant que les rois du rugby mondial, vainqueurs quand même de trois Coupes du Monde, nourrissent le moindre complexe vis-à-vis du rugby français. C'est vrai, comme le disait Pierre, qu'ils nous respectent, ils nous craignent peut-être plus que d'autres formations qui sont un peu sur le même modèle, c'est-à-dire modèle anglo-saxon. C'est vrai qu'avec les Latins, ils savent pas trop comment faire. Et finalement, les seules fois où les All Blacks sont tombés de haut face à l'équipe de France, c'est plutôt par excès de confiance plutôt que par ce qu'ils nous nourrissait un complexe contre nous. En 99, par exemple, rappelez-vous de cette fameuse demi-finale à Twickenham qu'on remporte, un des matchs les plus mythiques de l'histoire du rugby français. Elle intervient 4 mois après une rouste, mais une rouste qu'on avait pris à Wellington 54-7. Du coup, les Blacks étaient arrivés à Twickenham tellement sûrs de nous mettre une rouste qu'ils ne nous ont pas respectés et qu'ils sont tombés de haut. Moi, je me rappelle, Philippe, on était ensemble en 2011 à l'Eden Park, la finale de la Coupe du Monde. Rappelle-toi le sourire et presque les moqueries des supporters qui étaient. La tribune de presse était en plein milieu de la tribune des supporters et on arrivait, nous, nos petits Frenchies, et là ils nous regardaient, ils se foutaient de notre gueule, les supporters.
Mais c'est passé des choses depuis 2011 quand même.
Les 20 dernières minutes, ils ont souffert. Mais oui, mais parce qu'une nouvelle fois, ils avaient l'excès de confiance, ils nous avaient mis une pâtée.
Mais là, ils te parlent d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que le complexe.
Oui, mais je te parle de l'histoire générale. De complexe, tu crois que parce qu'ils ont perdu deux matchs, ils font un complexe vis-à-vis de nous? Mais j'y crois pas une seconde. Crois pas une seconde. Ils craignent Dupont et je pense qu'ils ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils nous craignent et lorsqu'ils nous respectent. Et là, c'est le cas en ce moment.
L'excès
et
de confiance, il est où?
Il n'y a pas d'excès de confiance là. Il n'y a pas d'excès de confiance là. Mais il n'y a pas de complexe. Tu vas pas me dire qu'il y a un complexe des blagues vis-à-vis d'Antoine Dupont quand même. Ils en fabriquent 15 tous les ans des Antoine Dupont ou presque.
Philippe, réponds pour lui.
Je vais répondre à Christophe. Alors lui, Christophe, il dit que les matchs qui comptent, c'est les matchs de la Coupe du Monde. C'est ce qu'il a dit dans le
les matchs.
Et sur les matchs, les matchs éliminatoires, on a les meilleures statistiques contre les All Blacks. 6 matchs de Coupe du Monde, 3 victoires néo-zélandaises, 3 victoires françaises. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a Boden Barrett qui fait un article en début de semaine et qui dit que la France, ils sont capables de créer le chaos. Hier, j'étais avec Martens et Sir John Kirwan et
t'étais auprès de la sélection
néo-zélandaise et avec deux All Blacks et ils disent nous ce qu'on craint de l'équipe de France. C'est que l'équipe de France est imprévisible. Ils disent, on va en Angleterre, on sait comment les Anglais vont jouer. On va en Irlande, on sait comment l'Irlande va jouer. La France, c'est difficile de les lire. Et de plus, ils ont toujours eu des générations incroyables avec les meilleurs joueurs, les joueurs du monde. Kirwan, Lomu, Mako, Tanaumaga, Carter. Là, le meilleur joueur du monde, il n'est pas du côté des All Blacks, il est du côté de l'équipe de France. Donc, par rapport à ça, je ne vais pas dire, mais ils craignent énormément l'équipe de France, notre jeu, notre puissance. Et donc, alors après, ça va être très compliqué, très difficile ce soir, parce que ce qui est vrai, c'est que les All Blacks sont très énervés. Ils n'ont pas gagné contre la France depuis très longtemps. Ils viennent de passer 2 défaites d'affilée contre la France. Là, ça serait une 3e et c'est pas arrivé depuis 94-95. Donc le match aujourd'hui, il va être très très dur. Mais ils craignent l'équipe de France et ils craignent l'équipe de France au Stade de France plus que n'importe quelle autre nation.
Ce que dit Christophe, c'est dans ton début d'argumentaire, c'est « Oh ben ça, c'est bien français de penser ça ». Mais au foot, c'est un peu pareil avec le Brésil. C'est-à-dire que le Brésil, grande nation du foot, qui a gagné beaucoup plus de Coupes du Monde que notre équipe de France. Et pourtant, après 98 et après 2006, il y a peut-être un petit complexe de la part des Brésiliens, tout de même.
Oui, mais
c'est très français.
À la différence que l'équipe de France de foot a gagné la Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde, alors que nous, on n'a pas gagné de Coupe du Monde. C'est une grande différence dans ton raisonnement. Donc je veux dire, le complexe, t'as le complexe à partir du moment où tu gagnes des Coupes du Monde. Aujourd'hui, on gagne des grands chelems de temps en temps, mais on gagne pas de Coupes du Monde. C'est une grande différence avec les Blacks qui ont été quoi, 3 fois champions du monde, hein, si je me trompe pas.
Donc on vaut encore peanuts pour eux.
Mais il y a une différence entre un complexe
et craindre et avoir et redouter le French Flair, redouter l'inspiration française, le chaos français, comme je dis.
Il se méfie.
Normal. Et puis tu es obligé de te méfier d'une nation aujourd'hui qui est pas dominante mais qui a progressé. Les Blacks sont bien conscients que l'équipe de France n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc il y a quand même ce respect-là. Moi je parle plus de respect qu'autre chose. Puis après, Philippe, il l'a dit, l'histoire parle d'elle-même.
Ok, on a gagné
63 matchs, 48 victoires.
Comment tu veux faire un complexe?
Donc on a juste gagné le respect, c'est ça?
On a gagné le respect.
Ok, très bien. Oui. David?
Ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que faut toujours, comme Christophe, hein, j'ai les mêmes inquiétudes. Je pense qu'ils vont être très très forts, justement parce qu'ils nous prennent pas à la légère, et ça sera difficile de les surprendre. Et on l'a entendu, ils vont axer toute leur attention sur Antoine Dupont, qui est la pierre angulaire de l'équipe de France. Et voilà quoi, comment ils vont l'aseptiser, comment ils vont l'étouffer, tout l'enjeu va être là. Maintenant, je trouve que on a bon, les All Blacks, ils ont toute une histoire, c'est vrai, mais je trouve que l'équipe de France aujourd'hui, nous sommes les All Blacks de l'Europe vis-à-vis du monde du rugby.
Ah non, c'est l'Irlande aujourd'hui qui t'a fessé l'année dernière chez toi lors de cette destination. Tu peux pas dire ça. Aujourd'hui, l'Irlande, même si elle traverse une période un peu délicate en ce moment, puisqu'ils ont perdu contre les Blacks. Et ils ont failli perdre contre les Argentins hier chez eux. Mais l'Irlande était les Blacks de l'Europe. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, que la France, c'était les Blacks de l'Europe.
Si, moi, j'ai ce sentiment-là par rapport à. Dans la durée, quoi, tu vois, pas par rapport au moment-là, mais je trouve que depuis pas mal de temps, la France, quand même, tient le leadership de l'Europe du rugby. Enfin, c'est mon avis. Maintenant, tu as sans doute raison, puisque c'est toi le référent.
Oh, fou, ouais. Référent, c'est vite dit quand même. Hein. Pas les grands mots dans cette émission. Ouais. Et Philippe nous appelle au 32-16. Philippe, il est un peu comme vous. Il est pas très content de ma question, je crois. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon, je trouve ta question totalement arrogante, très française et tout. Mais moi, j'adore.
Philippe, t'as raison. Il lui manque la moustache et le béret.
Mais il adore, et c'est ça aussi le but dans cette émission, c'est de créer quelque chose. Et je sens que les poids sont montés quand tu as entendu la question, Philippe.
Non, mais bon, c'est mal connaître l'état d'esprit anglo-saxon et néo-zélandais en particulier que de croire que cette nation puisse avoir un seul complexe vis-à-vis de nous. Le mot complexe est beaucoup trop fort. Disons qu'ils font attention. Moi, je les ai regardés là dans les séries d'automne. Ils sont pas brillants, hein, les Blacks. Ils sont moyens. Ils sont assez maladroits. Ils ont battu des Irlandais qui, pour moi, sont en train de descendre largement. Ils ont battu des Anglais qui ne sont jamais très très bons. Inspirés. Je me suis régalé avec l'Australie. Là, on a vu du French Flair avec l'équipe d'Australie, les gars, contre l'Angleterre. On s'est régalé, hein. Franchement, des frissons. Je termine. On ne sait pas du tout à quel niveau sont vraiment les Français. Donc ce soir, peut-être que la question, ça va t'empêcher de dormir là, parce que si on prend 45 points, on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas.
Mais on sait
d'un côté comme de l'autre,
attends,
d'ailleurs.
Je suis désolé.
Mais, on mettra 45 points.
On ne sait pas. On a vu de la qualité chez les Blacks qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je suis désolé avec des nouveaux joueurs qui sont en train d'exploser au très haut niveau, comme Sitiki, Savea qui est un capitaine incroyable et un troisième ligne incroyable. Ils ont une troisième ligne de Royal. En mêlée fermée, ils ont progressé. C'est vrai qu'ils n'ont pas été extrêmement brillants, mais ils ont été très pragmatiques. Non, mais je les ai trouvés forts sur les bases. Je sais pas, moi. J'ai retrouvé des Blacks conquérants.
Ouais, moi j'étais à Twickenham. Ils ont été secoués contre l'Angleterre, mais ils ont eu encore, voilà, les 20 dernières minutes. Ils ont eu les ressources pour revenir et gagner ce match. Après, par contre, où ils m'ont impressionné, c'est en Irlande.
Ils ont étouffé les Irlandais.
Ils les ont étouffés, ils les ont asphyxiés, ils les ont bouffés.
Ce qui est quand même pas donné à tout le monde, hein.
À l'Irlandaise. Ils les ont bouffés physiquement, ils les ont bouffés dans l'engagement. Alors, par contre, c'est des Néo-Zélandais qui tapent beaucoup plus. Ils mettent beaucoup plus de jeux au pied. Ils mettent beaucoup beaucoup plus de duels aériens, et c'est pour ça que je crois que Fabien Galthié met Romain Burros au poste de titulaire, au poste de 15, parce que les duels aériens, et surtout que maintenant t'as plus le droit de faire d'escorte, c'est-à-dire avant tu pouvais bloquer les joueurs, maintenant c'est interdit sur cette nouvelle règle, donc il y a beaucoup de combats aériens, et là les Néo-Zélandais sont très bons aussi.
Ok, donc ils vont nous mettre la pression,
et nous pas très fort en tout cas,
c'est pas notre point fort.
Mais Burros, c'était le cas face à l'Afrique du Sud.
Burros, c'est des meilleurs.
On perd à cause de ça face à l'Afrique du Sud.
On perd contre l'Afrique du Sud sur les duels aériens, tout à fait.
Merci Philippe d'avoir composé le 32-16, toujours un fidèle auditeur. Mais j'adore, toujours un fidèle auditeur des grandes gueules. Et vous avez raison de nous boucher, les copains.
Franchouillard que tu es.
Vous pouvez vous affronter et affronter les GG, mais vous pouvez aussi venir me bousculer sur les questions. Employé, il n'y a aucun problème, les copains.
Il y a David qui voulait parler.
Il y avait Super Dupont et Super Dupont.
Non, mais je voulais juste, parce que j'entends la petite musique, donc le débat est terminé, mais je voulais juste revenir sur le pessimisme de Christophe qui dit qu'on peut pas mettre une ratatouille aux All Blacks. Je suis désolé.
Soir, je crois pas.
Ça peut basculer d'un sens comme de l'autre.
Ah, bah écoute.
Voilà. Réponse ce soir, 21h10.
On verra demain.
Au Stade de France.
Moi, j'aimerais avoir l'avis du référent rugby.
Prise d'hôtel. Il n'y a pas de référent rugby ici, c'est un bien grand mot pour nous, les copains. C'est le grand moment. Écoutez-moi bien, chers auditeurs.
RMC vous offre 100 000 euros.
Vous rêvez de changer de voiture, de partir en vacances en famille, de faire le tour du monde. Bref, de faire beaucoup de choses, car nous vous offrons une somme unique sur RMC. 100 000 euros, 100 000 euros, c'est l'heure de jouer. Vous envoyez dès maintenant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 11h28, vous avez jusqu'à 11h38. Évidemment, bonne chance à tous. Le grand tirage au sort, c'est dans 5 jours pour ces 100 000 euros. Bonne chance à tous. Vraiment, vraiment, jouez pour tenter de gagner cette somme colossale.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec le débat caché. Vous m'avez proposé du Estelle Mosley, vous m'avez proposé du Paul Pogba libéré par la Juve, du Mike Tyson qui a combattu cette nuit. Je ne sais pas si vous avez la bonne réponse, mais je sais que c'est un débat caché qui va vous plaire. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Philippe Saint-André, Denis Charvet. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs le 32-16 pour affronter une GG sur un thème du jour. C'est terminé pour la première manche du slalom à Lévis en Laponie finlandaise. Première manche du slalom dame. Où en sont nos Françaises, Léna Marjac?
Alors on aura deux Françaises qualifiées pour la seconde manche tout à l'heure à partir de 13h. On retrouvera Marie Lamure qui s'est classée 24e de cette première manche, et puis Clarisse Brèche 30e, donc dernière qualifiée de cette première manche. Elle partira donc première tout à l'heure dès 13h, et puis en tête de course, ça n'a pas bougé, on retrouve l'américaine Michaela Schifrin suivie de l'allemande Lena Dürr, et puis la croate Zrinka Ljutic. Et donc départ de la seconde manche tout à l'heure à partir de 13h à Lévis en Finlande.
À tout à l'heure, Léna Marjac. Il est 11h33, vous avez encore 5 minutes pour jouer, pour tenter de remporter 100 000 euros. 5 minutes, nous allons clore les inscriptions à 11h38, RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. 100 000 euros, ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est la première fois, c'est inédit, sur RMC. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, et pourtant elles vont devoir débattre. Sont-elles totalement dans le noir, à moitié dans le noir, ou ont-elles vu la lumière, ces GG? Le débat caché du jour, votre guet-apens aujourd'hui. C'est ça. Ah oui, c'était son grand retour. Bravo David. Christophe, 19 ans après son dernier combat professionnel. À 58 ans, Mike Tyson est remonté sur le ring cette nuit à Las Vegas. C'était tôt ce matin pour nous, heure française. Et il a perdu face au youtubeur devenu boxeur Jack Paul. Vous l'avez entendu, Iron Mike est immortel. Mais cette nuit, il a fait son âge quand même. Dominé quasiment dans tout le combat. Jack Paul s'est imposé sur décision unanime des juges après un duel sans grande intensité. Jack Paul a touché 78 fois Mike Tyson. lui, notre héros américain, il a touché seulement 18 fois son adversaire. Une parodie de boxe pour beaucoup, un combat juste pour l'argent. Et pourrait y en avoir d'autres. Hein. Mike Tyson a déclaré que ce ne serait pas forcément son dernier combat. Je vous propose de l'écouter à l'issue, évidemment, de ce retour. Mike Tyson, il était content de lui.
Je n'ai rien à prouver à personne, uniquement à moi. Je ne suis pas du genre à vouloir plaire au monde entier. Je suis juste heureux de ce que je peux faire.
Bon, il n'a rien à prouver à personne, ça c'est vrai.
Il a tout à gagner.
Même si, évidemment, il y a eu pas mal de polémiques autour de ce combat, et notamment sur l'intérêt, évidemment, de ce combat. Alors, notre débat, vous avez certainement vu les images, les copains, de Mike Tyson, assez hagard, KO, forcément après un combat de boxe à 58 ans. Est-ce qu'il vous fait de la peine, Mike Tyson? Oui ou non, Christophe Cessieux?
De la peine, non.
Non, il ne fait pas de peine. Pas ok, de peine. David Douillet.
Oui, il me fait de la peine.
Philippe Saint-André.
Non.
Non. Denis Charvet.
Oui, j'ai pas envie de le voir comme ça.
Oui, tu n'as pas envie. David.
J'ai tellement admiré ce garçon.
David, pourquoi oui?
Bah parce que je vais donner un chiffre. 31. 31 ans. 27 ans, 58 ans. Voilà, c'est rien que ça. Voilà, ça suffit. Ça dit tout, ça explique tout. C'est ridicule face à quelqu'un qui essaye de faire croire que c'est un boxeur de très haut niveau. C'est peut-être un excellent boxeur, mais de très haut niveau.
Alors ça saurait. Ouais.
Quand il s'agit de rencontrer quelqu'un qui pourrait être son père, ça craint quoi. Voilà, c'est pas sérieux. Alors je comprends les organisateurs qui veulent faire du fric. Et c'est tout le principe des organisateurs, hein, malheureusement. Le type, c'est un youtubeur, il a plus de 20 millions d'abonnés, donc ils savent pertinemment qu'il y aura 20 millions, au moins 20 millions de mecs qui vont se connecter, qui vont payer.
Apparemment, il y a 120 millions qui sont connectés. Ça a fait exploser. Bah
d'ailleurs, il y a eu des problèmes sur Netflix.
Ça a fait exploser la plateforme Netflix.
Bon, bah voilà, très bien. Donc ils ont réussi leur pari, parce que c'est ça en fait.
Bah oui,
c'est pas un combat de boxe. C'est juste, c'est un combat de foire. C'est du catch avec des coups, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc c'est pour ça que c'est ridicule. Ça dévalorise. La boxe que j'adore, moi pour moi la boxe c'est des vrais duels, c'est un des sports absolus du duel, du principe du duel, voilà, deux hommes face à face, il y en a un qui tombe, c'est fantastique. Et là je suis désolé, quand le monde de la boxe organise ce genre de choses, c'est elle si la branche sur laquelle elle devrait être, voilà, c'est dommage.
C'est un peu du cirque, mais de la foire aussi. Quand on expose un petit peu le l'ancien champion que tout le monde a rêvé, tout un coup on le met, on l'expose. C'est affreux. Je trouve ça tellement dégradant. Et en même temps, ça correspond au monde moderne. Alors il y a eu McGregor avant qui a fait une exhibition.
Oui, c'est ça, un mec de MMA contre un boxeur.
Il y a eu Mayweather. Mayweather qui a fait ça aussi. Donc c'est pas le premier quand même qui fait ça. Mais il faut arrêter.
C'est les jeux du cirque.
Il faut arrêter. Parce qu'après, on comprend que Mike Tyson, on lui propose 40 millions de dollars. Il va pas dire non. Parce qu'il sait très bien qu'il va pas prendre un coup à la tête. Il a rien pris. Il est sorti, il avait pas pris un pet hier. Non, mais voilà. Donc...
Je rappelle que les gants étaient renforcés pour éviter la brutalité des coups.
On a soupçonné que le match, combat soit truqué, arrangé,
le match, bien sûr. Truqué, mais donc,
ça n'a rien à voir avec le sport. De toute façon, vous imaginez, Philippe, on en parlait tout à l'heure en rigolant, mais aller ce soir sur le terrain, et affronter les jeunes All Blacks avec 30 ans d'écart. Tu montrais sur un tatami pour affronter ton millénaire aujourd'hui, David.
Non, c'est même pas ça. Moi, je veux bien monter sur un tatami pour affronter un youtubeur qui fait du judo. Il y a aucun problème. La vérité, tu vois.
Il a raison, David.
C'est ça. Évidemment. Bah oui, ce qu'on a vu hier soir, c'est ça. C'est un youtubeur qui fait de la boxe. Voilà, il s'amuse et tout. La gonflette, machin, les beaux pecs, etc., etc. Il se prend pour un autre.
Tu veux pas qu'on le monte le combat?
Mais c'est pas un athlète de haut niveau. Je suis désolé.
Non, c'est devenu quand même un boxeur. C'est pas un des top poids lourds de la planète.
Mais il a fait plusieurs combats professionnels.
12 combats. 12 combats pro.
Il y en a plus que Vincent.
Mais face à qui, les gars? Soyez pas dupes.
Oui, mais ça, tu as raison.
Moi, la seule chose que.
Arrêtez.
La seule chose que j'ai aimé sur Mike Tyson, c'est que sa vie est compliquée. Et là, il a retrouvé un objectif. Et pendant 6-7 mois, il s'est préparé. Quand tu le vois, là, torse nu.
Le mec
a 58 ans, il est
affûté. Mais t'as pas d'enjeu quand même.
Oui, mais
lui, il a trouvé une forme pour se réentraîner, se repréparer, d'avoir une hygiène de vie qu'il n'avait plus.
Et en plus,
il prend 40 patates. Donc,
mais oui, mais c'est ça. Bah oui. Mais écoute, franchement, nous tous autour de la table. Ben voilà. Mais tout le monde le fait.
Je ressors mal, mais je.
Est-ce que quand et c'est ça le fond du débat, quand on a tellement aimé un sportif, on le voit. Je sais pas, moi ça m'a fait. Alors, j'ai pas ta connaissance, par exemple Christophe et même David, votre passion pour la boxe. Mais quand on le voit sur la décision des arbitres, on le voit comme ça un peu. J'allais dire grabataire, c'est pas le mot parce qu'il serait trop fort, mais les épaules baissées, hagard. Bah,
vieux, quoi. Voilà, c'est tout.
Ouais, voilà. Enfin, normal. Il a 58 ans.
Moi, je trouve que c'est inacceptable quand ce mec a tellement été brillant, était un des meilleurs boxeurs de tous les temps, de le voir comme ça, c'est une image qui est pas acceptable, voilà.
Et puis Jack Paul, il lui aurait pas donné l'heure il y a 20 ans.
Non, mais moi, j'ai eu plus de peine, par exemple, pour un Mohamed Ali qui avait fait le même genre de truc. Oui, et qui, dans un combat, mais c'était un vrai combat, et il a pris une correction. Et ça fini de l'achever. Ça a fini de développer sa maladie dont il est mort quelques années plus tard. J'ai eu de la peine. Mohamed Ali, pour moi, c'était le plus grand. Ça a été une boucherie. Mais c'était un vrai combat. Il a eu mal. Il a souffert dans son corps.
C'est ça, la boxe.
Alors que là, hier, c'est du spectacle. C'est du show. C'est pas un vrai combat.
Mais qui marche, t'as vu? Ça marche.
Mais ça marche, évidemment. Regarde. JC s'est réveillé à 6h30 ce matin pour regarder le combat. Moi, j'ai pas regardé.
S'il y a des catégories dans le monde du sport et en particulier des sports de combat, s'il y a des catégories de poids et des catégories d'âge, c'est pas pour rien. Voilà. Donc dès qu'on sort de ça, c'est ridicule. Voilà, on est dans le ridicule. Il faut comparer ce qui est comparable. Mike Tyson, à la limite, aurait pu être crédible et puis respecté ou respectable dans sa démarche s'il avait affronté un type de sa génération, tu vois. Puis là, on voit deux vieillards s'affronter. Ouais, très bien.
Ça a été organisé, ça aussi. Les combats entre les vieux et les vétérans. C'est ce qui se passe au
pourquoi
tennis.
Pas.
C'est ce qui se passe au tennis, par exemple. Oui, mais et c'est ce qui pourquoi peut-être pas, qui va se passer pas. Aussi en ski. Regardez avec Lynn Seven qui a 40 ans et qui a décidé de se relancer dans des descentes. Moi, j'ai vraiment la trouille pour elle. Parce que 40. Non, mais lui, c'est un slalomeur, c'est différent. Elle, c'est une descendeuse. Elle est cassée partout, elle va se relancer dans des descentes à 120 km/h avec un genou en titane. Tu vois, là j'ai un peu la trouille pour elle. Et il faut pas faire le combat de trop. Là, Tyson l'a peut-être fait. Enfin, il a pris des sous, mais pour Lynn Seven, ce sera sans doute la descente.
Avant le combat, il y avait pas mal d'experts qui disaient attention. Il faut qu'il fasse attention à sa santé.
C'est normal, ils sont Tyson.
Oui, il est abîmé quand même.
C'est sûr,
sachez qu'il a déclaré mon dernier combat, je ne sais pas, je ne pense pas, cela dépendra de la situation. Qui pour la suite, peut-être son frère, le frère de Jack Paul qui est un catcheur. Voilà. C'était pas terminé les copains la saga.
Après face à l'ours, il y avait des combats, et... tu veux.
Enfin, non, mais ce qui est sidérant, c'est qu'il y a 120 millions de personnes qui sont connectées.
Mais c'est normal, c'est Mike Tyson.
C'est du voyeurisme.
Oui, mais d'accord, donc il y a pas de raison que ça continue pas. C'est ce que je te dis. Il n'y a aucune raison.
Oui, c'est vrai. Économiquement, oui, t'as raison.
Faisant un combat entre
100 millions, c'est
Tyson Foreman, ça peut être sympa.
Sportivement, c'est ridicule, quoi. C'est même pas sportivement. Il n'y a même pas de sport.
C'est
les jeux du siècle, c'est ce que tu disais. C'est absurde.
Bon, ben voilà, c'était important d'en parler dans les grandes gueules du sport ce matin.
Un très bon débat.
11h44. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport.
Je ne félicite pas pour tes choix éditoriaux, quand même.
Il a su. JC a su, pour une fois, décrypter l'essentiel.
Merci beaucoup, mon cher David.
Ça va bien entre vous.
Ma premier compliment à 11h44, au bout de quasiment 3 heures d'émission. Je trouve que c'est sympa de la part d'un double champion olympique. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec vous, les auditeurs. Vous venez affronter le GG. J'espère que David fera un malin dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, de retour dans les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite avec David Douillet, Philippe Saint-André, Denis Charvet, Christophe Sessieu à partir de 11h, de midi, les paris RMC, restez bien avec nous, on va vous parler de France-Nouvelle-Zélande, on va vous donner toutes les cotes, les bleus sont favoris. Est-ce que ça vous étonne les copains et vous allez évidemment conseiller les auditeurs au mieux sur cette rencontre
avec Denis. Deux experts.
T'auras une très belle cote à proposer.
Oui.
Tu vas nous régaler sur France-Nouvelle-Zélande, c'est dans quelques instants. Mais tout de suite les auditeurs, c'est à vous de jouer.
RMC, les grandes gueules du sport.
et vous
de jouer un petit peu comme Mike Tyson et de venir détruire un papy, voilà, de la bande des grandes gueules du sport. Il y a Michel qui nous appelle. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, Michel. Tu veux affronter qui ce matin?
Mais je n'ai pas entendu qui dit qu'elle parlait de l'affaire
Jalibert
ce matin.
Ah bon, on a tous parlé. On va réécouter un extrait. C'était Christophe Cessieux qui proposait une question de savoir si Jalibert, voilà, il devait maintenant renoncer au bleu. On réécoute, c'était à 10h45.
Alors je sais bien qu'on n'est pas au pays des bisounours, c'est que la loi de la concurrence est l'une des règles essentielles du haut niveau, mais moi j'ai quand même un peu de mal avec la manière de faire, avec cette gestion qui n'a pas grand chose d'humain.
Voilà, la gestion inhumaine. Oui. Michel, tu n'es pas du tout d'accord?
Non, je trouve que vous en faites un petit peu trop. Parce que même de comparer à l'affaire Dreyfus, etc., enfin bon, oui, c'est pas quand même... Bon, c'est vieux comme le rugby, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'on sort quelqu'un pour en mettre un autre. Et on sort Jalibert pour mettre qui? Pour mettre Ramos. Quand même, Thomas Ramos, moi je suis de Toulouse, je peux vous dire que nous avons été champions de France et champions d'Europe, souvent grâce à lui, ouvreur. Vous comprenez? Bon, et quand on est Toulousain, on se dit que quand Ramos joue ouvreur, nous sommes tous contents. Bon, donc il faut pas dire bon voilà, on sort de la libère parce que ça peut être le meilleur de Bordeaux, etc. Il n'a pas, je sache, fait gagner Bordeaux au plan ni français ni au plan européen. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. C'est pas parce que vous êtes le meilleur à un poste que vous êtes automatiquement sélectionné en plus.
Et puis, de toute façon, Michel, les meilleurs, c'est les Toulousains, tout le monde le sait. Ah,
ça, il boit du petit lait parce qu'il a dit qu'il était Toulousain. C'est pas beau de m'attaquer là-dessus.
Excusez-moi. Le poste d'ouvreur, c'est un poste stratégique. Bon. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes le meilleur à ce poste que vous risquez de ne pas
rentrer. Donc, ça veut dire quoi? Que là, en l'occurrence, le choix de Galtier, c'est de dire, bon, Jalibert, qui fait un début de saison exceptionnel avec Bordeaux et non pas avec Toulouse. Donc, et derrière, Ntamack. Bon, Ntamack, blessé. Derrière Ramos, parce que de toute façon, ça avait été le choix de Galtier. Derrière même Antoine Dupont qui viendrait en troisième. Et vous avez qui comme quatrième ouvreur qu'on mette Jalibert derrière? Vous en avez un quatrième?
Alors, c'est un Argentin, il joue pour l'Argentine.
Michel. Excusez-moi, je peux vous parler de Toulouse. C'est mon avis. Hein. Premier ouvreur à Toulouse, Ramos. Deuxième, Malia. Troisième, Dupont.
Ntamack. Oui, à quatrième, Ntamack, vous le mettez?
Exactement.
Ah ouais?
Essayez de revoir les finales de Coupe d'Europe et de Championnat de France avec Ramos ouvreur. C'était exceptionnel.
T'as
oublié ce qu'a fait Romain Ntamack, quand même.
La dernière victoire contre La Rochelle, c'est Ntamack qui m'a blessé pour la victoire.
Attendez, pour répondre à Michel tout de même, rapidement, Philippe, parce que Michel ouvre un débat intéressant. On en a beaucoup parlé cette semaine de cette affaire Jalibert. Mais à un moment donné, le sélectionneur, ce sont ses choix. Il est là pour sélectionner. Et s'il n'aime pas trop Jalibert parce qu'il lui apporte aucune garantie, notamment en défense, bah, il s'en passe. C'est ce qu'on en a trop fait, Philippe, avec Mathieu Jalibert. C'est pas Dupont, quoi.
Non, disons que Mathieu Jalibert fait un début de saison de grande qualité avec Bordeaux. Qu'il ne soit pas titulaire, ça on le comprend. On sait que Fabien Galtier préfère Ntamack ou Ramos en tant que numéro un au poste de demi d'ouverture. Mais après qu'il soit déclassé complètement, il avait l'habitude d'utiliser Mathieu Jalibert comme, on va dire, un remplaçant qui rentrait sur les fins de match.
Il est titulaire en début de la dernière Coupe du Monde.
Quand il y avait plus d'espace. Alors que là, on sait que maintenant, il est complètement hors groupe. Il n'est pas dans les 23, que ça soit contre les All Blacks ou même la semaine prochaine contre l'Argentine.
Ok. Bon, merci Michel d'avoir été avec nous.
Je pense que au-delà de la non-confiance que Galtier a pour Jalibert, je pense qu'il y a un problème Jalibert au sein du groupe. Hein.
Je pense pas. Non.
Tu penses pas qu'il est.
Oui, il y a des rumeurs par rapport aux Toulousains, tout ça, mais j'y crois pas trop, moi. J'y crois pas trop.
Ok, bon, merci en tout cas, Michel, supporter toulousain, d'avoir été avec nous et d'être venu interpeller les GG. Il y a Vincent aussi qui nous appelle au 32-16. Bonjour Vincent.
Bonjour les GG. Bonjour.
Un habitué de cette émission, Vincent. Bon, tu veux batailler contre qui là?
Mais en fait, du coup, je veux bien rebondir sur le cas Jalibert là que vous étiez en train de parler.
Oh non, autre chose. Allez, viens, autre chose.
Mais non,
je vais dire autre chose alors. Christophe, t'as raison. Ce soir, on va pas leur mettre 30 points, on va leur mettre 40 au black minimum. Pour arrêter d'avoir peur des blacks. Pour arrêter d'avoir peur des all blacks.
Et oui, il a peur de tout, Christophe. Il a peur de tout.
Revenu. Ils ont quand même Bowden Barrett, Damien McKenzie. Alors, si c'est ça leur avenir au poste de demi-ouverture pour jouer le prochain mondial, eh ben, on va rigoler. Les mecs, ils ont le condition. Ils ont à peu près la même tête qu'un gaucher asthmatique. Ils prennent un genou dans la tête, ils sont carreaux. Faut peut-être pas l'oublier quand même.
Et là, puis, Téléa et leur ailier est absent, et Kane qui est aussi quand même leur plaqueur est absent. Donc ils ont aussi des joueurs absents.
Ils n'ont pas un pichet de
normalement, on leur met 42 points.
Je dirais même 50.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur Jalibert?
Sur Jalibert, par contre, je suis assez d'accord avec Christophe sur le déclassement. Je le trouve. Alors, moi, je suis supporter de Toulouse comme le monsieur d'avant. Par contre, je suis désolé, je trouve ça un peu honteux ce qui a été fait à Jalibert. Parce que c'est un mec, alors en tant que titulaire. Je le dis, je l'ai jamais trouvé transcendant, 15 de France. Par contre, combien de matchs durant les 4 premières années en sortie de banc il nous a fait gagner? La dernière tournée d'automne où on prend l'Australie, l'Afrique du Sud, faut pas oublier qu'on est derrière avant son entrée, il rentre, il te fait gagner des matchs. Putain, merde, en sortie de banc, c'est un mec exceptionnel.
En finisseur, il était super finisseur. Ouais.
Même si là, le problème, c'est qu'il s'est un peu raté samedi dernier. Il s'est intercepté, mais il a une telle pression sur les épaules.
Tous les remplaçants sont rentrés par Boudouin la semaine dernière. Même Ficou, je ne sais même pas pourquoi il est sur la feuille de match ce soir. Il est titulaire. C'est un scandale, mec. Moi, c'est plus Ficou titulaire sur Kim Jeune aussi. Parce que Gaëtan, il faut m'expliquer ce qu'on lui reproche. Le mec, il est en Argentine. Il fait une tournée en Argentine avec Frisch. Ils sont très bons au centre face à la paire de centre argentine qui est titulaire actuellement. Putain, le mec, tu le fous face aux Japonais. Tu vois enfin du jeu de mouvement. Et on remet Ficou qui a un coffre à ballon. Putain, c'est pas possible. Gaëtan, s'il le mange, on fait quoi? Je vais faire une chose.
C'est bien remonté.
Une banane sous la cheville de Ficou quand il se fasse une cheville en jouer.
On en a parlé à 9h
Trompette, j'en peux plus, moi, je suis désolé. Ficou, ça fait 3 mondiales qu'il fait, ça fait 3 mondiales qu'il brille pas. Au bout d'un moment, place aux jeunes. On a des gamins qui sont pétris de talent. Gaëtan, faut pas oublier qu'en 2000, le gamin, il a quand même un mental, il est exceptionnel, Gaëtan. Faut quand même pas oublier qu'en 2023, Galtier lui promet moins émerveille de l'amener au mondial. Il l'amène pas au mondial tant que ses potes, ils sont champions du monde moins de 20 ans, en mettant 50 points à tout le monde. Faut pas oublier le mental qu'elle gagne.
Ok, Vincent, il peut être titulaire ce soir. Hein.
Vincent, ouais.
Il a la griche pour être titulaire ce soir.
Finisher, il est bon comme finisher.
Il pourrait être titulaire dans les grandes gueules du sport aussi. Hein. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir composé le 32-16.
Salut.
Évidemment,
salut,
si vous voulez réécouter cette émission en podcast, vous pouvez. L'intégralité est déjà mise en.
Ça, c'est chez qui là?
C'est les enfants, David?
Ça rentre du ski là ou quoi, David?
C'est ton côté?
Non, c'est pas chez moi, je suis désolé.
Ah, c'était chez l'auditeur. Je pensais que c'était le chien qui commençait à couiner.
Non, tout va bien.
Merci David, merci Christophe, Philippe, Denis, évidemment, Denis, Christophe et Wilfried Templier, on vous retrouve à partir de 20h ce soir en direct. Exactement. Du Stade de France. Coup d'envoi 21h10, vous allez.
Et on va leur rêver, mettre les copains.
Et demain, Philippe, on débriefe la rencontre dès 9h du matin.
Mais bien sûr, on sera là.
Ok, on sera là. Donc, solide sur les appuis et les appuis, on espère évidemment une victoire.
On vous écoutera.
De notre 15 de France.
Avec la
à votre âge, à mon avis, il va falloir se reposer, les copains. 11h56, France-Nouvelle-Zélande. On en parle à travers les codes dans quelques instants. Nous sommes favoris, oui, de cette rencontre. Vous allez nous proposer, évidemment, un très, très beau ticket. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.